Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour et bienvenue dans le Réveil culturel, une émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec aujourd'hui à la prise de son Pierre-Henri. Tous les mardis, c'est l'actualité des expos dans le Réveil culturel et bien sûr, on peut s'abonner au podcast quand on n'est pas lève-tôt. Le podcast de ce rendez-vous quotidien est disponible, entre autres, en passant par l'application Radio France. Comment représenter la liberté quand on est peintre, sculpteur, céramiste ou architecte? Comment les grands artistes du 18e et 19e siècle ont-ils représenté la liberté ou l'idée qui se faisait de la liberté? C'est pas la même chose sous la Révolution, pendant l'Empire ou aujourd'hui. Alors, la passion de la liberté des Lumières au romantisme, c'est l'intitulé de cette exposition qui a lieu jusqu'au 13 octobre à la Galerie des Beaux-Arts de Bordeaux. Et ce matin, le Réveil culturel accueille les deux commissaires de cette exposition, Caroline Fillon et Isabelle Bexia.
Le Réveil culturel. Mardi, Expo.
L'invitation « La passion de la liberté des Lumières au romantisme » invite bien sûr à voir comment le concept de liberté a aussi évolué au fil d'un siècle. Le sens du mot « liberté » n'est pas le même pendant la Révolution que sous l'Empire. On va en parler et à travers 300 pièces, peintures, sculptures, objets d'art et beaucoup d'œuvres du musée du Louvre, la scénographie incite à se poser cette question, n'est-ce pas Caroline Fillon? C'est
oui,
ça le
bonjour.
But. Bonjour.
Oui, la scénographie qui a été conçue par Marie Corbin s'invite déjà dans un lieu qui présente trois niveaux. Donc trois niveaux qu'il fallait habiller, qu'il fallait habiter. Une scénographie qui reprend les grandes thématiques que vous avez évoquées, effectivement la liberté à travers un point de vue politique, économique, social, des définitions aussi de la liberté en introduction. Et pour que le visiteur puisse se repérer dans cette immense exposition, puisqu'il y a près de 300 pièces, des couleurs en fait lui permettent d'identifier les thématiques dans lesquelles il se trouve.
Alors on va parler bien sûr de ces thématiques, mais l'idée, Isabelle Bexia, c'était aussi de montrer à quel point ce mot « liberté » et le sens qu'on lui donne a beaucoup évolué.
Oui, tout à fait. Et l'exposition, justement, interroge le visiteur. Elle n'apporte pas vraiment de réponse, mais elle explique justement que la liberté, dans ces périodes assez troubles, hein, puisque l'exposition parle beaucoup du choc des révolutions et des traumatismes, des morts, notamment, par exemple, le tableau « La Grèce sur les ruines de Missolonghi » ou « Les femmes sous Liotte ». Donc, il y a vraiment l'idée voilà, d'une liberté qui aura un sens différent et qui va aborder différentes thématiques, justement.
Cette exposition est bien sûr à Bordeaux et c'est toute une saison autour de la liberté que la ville de Bordeaux a lancée cette année.
Oui, une saison autour de la liberté, une saison culturelle qui est la deuxième édition. La première, il y a 2 ans, était sur le thème du paysage. Et c'est plus d'une centaine d'événements qui s'inscrivent dans cette saison liberté, dont l'exposition est un petit peu l'événement phare. Elle l'a inaugurée et elle lui survit un petit peu puisque la saison se termine en août et l'exposition dure jusqu'au 13 octobre.
Et la question que vous êtes posée, vous qui travaillez dans le musée, c'est comment on a représenté la liberté?
Et pas que, oui.
c'est ça qui rend d'ailleurs cette déambulation très, très, très stimulante.
Alors on va la représenter soit de manière allégorique ou alors de manière beaucoup plus expressive. Les œuvres nous parlent. Il y a tout un étage d'ailleurs qui parle des héros de la Révolution et de la façon de les représenter avec un caractère héroïque ou au contraire idéalisé. Voilà, c'est ça qui est assez passionnant dans l'exposition puisque nous sommes en présence d'œuvres souvent de grands maîtres hein, comme David ou Rude, avec des œuvres majeures qui incarnent vraiment l'idée de la liberté, mais qui auront un aspect différent, bien sûr, suivant les périodes, puisque la liberté pourra être apaisée, ou au contraire, elle va exalter le peuple au combat, enfin, quand elle est représentée sous le trait d'une allégorie.
Et suivant les collections aussi, puisque ce sont deux musées en fait de la ville de Bordeaux
qui
s'associent, donc le musée des arts décoratifs et du design et le musée des beaux-arts. Donc effectivement, on présente des objets, on présente des tableaux, des œuvres graphiques, des œuvres en trois dimensions. Et la lecture de la liberté lorsqu'on est face à ces œuvres est différente en fonction qu'on regarde une pendule en porcelaine de Niederwyller ou effectivement.
Et pourquoi la pendule? On peut se poser la question.
Mais oui, pourquoi la pendule? Pourquoi on arrive dans une exposition sur la liberté? on tombe face à une pendule. Parce que cette pendule, ou ces pendules entre autres, sont présentées dans une section qui, après avoir justement resitué les définitions de la liberté, montre que finalement on est dans l'effervescence du siècle des Lumières, de cette soif de savoir, de connaissance, et de diffuser cette connaissance. C'est le grand siècle des dictionnaires. S'il y a des dictionnaires, c'est pour diffuser. On a des dictionnaires de commerce, des dictionnaires, évidemment l'encyclopédie. Et cette soif de diffusion fait que le savoir se répand, le savoir et le savoir-faire, et le progrès scientifique se répand. Et au XVIIIe siècle, des progrès sont faits par exemple en matière d'optique, pour des instruments scientifiques, et en matière aussi d'horlogerie. Et l'horloge, la montre, c'est aussi une forme de liberté, c'est l'individualisation du temps. On va pouvoir organiser aussi ses journées. Donc en fait, on montre à la fois comment la libération des savoir-faire, des connaissances amène le progrès dans la fabrication de l'objet, et à la fois comment cet objet a une résonance dans le quotidien et dans la manière dont on peut se l'approprier.
Et c'est pas du tout la même chose, merci Caroline Fillon pour cette précision, mais c'est pas du tout la même chose que de parler de la liberté en temps révolutionnaire.
Il y a la représentation de la liberté, il y a la manière dont la liberté a une incidence sur notre quotidien, et effectivement, au-delà de ces grandes thématiques, il y a des rencontres, des moments d'histoire, des chocs, comme effectivement les révolutions, qui vont faire de la liberté, je dirais presque un langage symbolique, un discours, un message qu'on va faire passer, une identité que l'on va prôner, que l'on va revendiquer, et qui va apparaître sous la forme effectivement d'allégories, qui va être incarnée par des personnages dont on va faire les portraits, et également par presque des ce qui est devenu presque des motifs décoratifs, le bonnet phrygien, le faisceau du licteur, le drapeau bleu blanc rouge, etc.
Isabelle Bexia.
Oui, alors par rapport justement au philosophe, à l'époque des Lumières, l'exposition débute avec cet aspect, avec les grandes figures de la philosophie sous l'aspect de sculptures ou de tableaux. Il y a des célèbres œuvres qui sont exposées, notamment de Houdon, Le Moine, donc avec on retrouve vraiment les grands philosophes, Diderot, Rousseau, Voltaire, Montesquieu. Et à Bordeaux, bien sûr, c'est important, ces présences. Et il y a vraiment cette idée de philosophes qui se sont intéressés à la science et qui ont eu un intérêt vraiment pour la vulgarisation des connaissances, mais avec la science. Donc le fait que ce soit rapproché d'objets scientifiques et qui demandent un certain mécanisme, c'est très important. Et l'exposition rappelle que ce siècle aussi incarne une idée où il y a un esprit critique, un rationalisme, mais aussi la sensibilité. Et on rappelle aussi les difficultés qu'ont rencontrées ces hommes, puisqu'ils ont souvent été censurés. Et il y a un très beau tableau dans la salle, justement, où se trouvent les fameuses pendules du peintre Vincent, qui illustre une leçon de labourage et qui rappelle les propos de Rousseau dans L'Émile, qui dit que l'agriculture est un des arts les plus respectables, mais qui rappelle surtout justement cette nouvelle vision de la société, et l'éducation, bien sûr, est un des thèmes abordés.
Et l'autre thème, c'est bien sûr la liberté, tantôt menacée, tantôt acquise, la liberté qui nécessite qu'on se batte pour elle.
Qui nécessite qu'on se batte pour elle.
Et Caroline Fillon, ouais.
Effectivement, ceux qui se battent pour elle vont acquérir ou brandir cette liberté. Et ceux qui sont en face ne considèrent pas justement ce moment comme un moment de liberté. C'est ça aussi qu'on a voulu mettre un petit peu en exergue dans l'exposition. À la fois par les définitions et à la fois par les pièces qui sont présentées. Toute une partie sur l'iconographie révolutionnaire, effectivement, qu'on citait tout à l'heure, ou les grands martyrs de la liberté, et dans le même espace, on présente des pièces sur lesquelles figure ce qu'on appelle l'image séditieuse. L'image séditieuse, alors pour vous resituer rapidement le contexte, donc pendant cette révolution, eh bien il ne faisait pas très bon être nostalgique de la monarchie, et donc s'est développé une sorte de presque une sorte de code secret, d'image cachée comme une image d'Épinal, où lorsqu'on regarde une urne, les branches d'un saule pleureur apparaissent en négatif les profils de la famille royale. C'était une sorte de signe de ralliement des monarchistes pendant la Révolution.
Voilà, et au nom de la liberté, il s'exprimait ainsi.
Oui, c'était effectivement une forme d'expression leur permettait d'affirmer leur présence et leur fidélité au roi défunt.
Et puis un exemple qui prend de la place sous l'intitulé La liberté ou la mort, et ben c'est la guerre d'indépendance des Grecs contre les Turcs, contre l'Empire ottoman.
Voilà, avec un tableau emblématique du musée des Beaux-Arts de Bordeaux, La Grèce sur les ruines de Missolonghi de Delacroix, une œuvre exécutée en 1826 qui présente représente une femme sur des ruines, à ses pieds un homme mort avec un bras sur un canon. Donc c'est vraiment l'idée de nombreuses victimes. Il y a surtout un mur avec des têtes coupées qui dégoulinent de sang. Et cette œuvre, elle rappelle justement la situation de la Grèce qui était menacée par l'Empire ottoman. Et l'exposition comporte de très nombreux documents qui relatent aussi toute l'ambiance de l'époque. Hein. Victor Hugo le disait dans Les Orientales en 1829. L'Orient est une préoccupation générale aussi à ce moment-là. Et on a la chance d'avoir des dessins prêtés par le Louvre, des dessins de Delacroix qui mettent en scène Byron, le poète. Donc Delacroix fait probablement allusion dans La main de l'homme mort au premier plan. Peut-être aussi fait-il référence à Jéricho qui vient de mourir. Mais dans ce tableau, c'est vrai, la Grèce sur les ruines de Missolonghi, on est vraiment devant une allégorie qui avait fait sensation à l'époque, même si Victor Hugo disait qu'il n'aimait pas les allégories. Mais il trouvait celle-ci remarquable, puisque la Grèce était très belle, autant dans son attitude et dans son expression. Et surtout, devant l'œuvre, on est aussi fasciné par la technique du peintre, son pinceau large et fière, hein, pour reprendre les termes de l'auteur. Et voilà, c'est vraiment une mise en scène d'un peuple qui lutte pour sa liberté dans l'œuvre de Delacroix. Et surtout, ce qui frappe à cette époque, c'est qu'on représente l'actualité. On n'est plus penché sur le passé, on représente les moments présents et on cherche vraiment à toucher le public, enfin les contemporains.
Et les femmes sont très très présentes pour représenter, pour incarner la liberté dans cette exposition, la passion de la liberté des Lumières au romantisme.
Oui, Émilie Duchâtelet, scientifique, a traduit Newton, qui s'est intéressée à l'énergie cinétique, compagne de Voltaire. On trouve aussi Madame de Staël. Donc c'est vraiment une exposition qui rappelle que les femmes, pour certaines, ont réussi à s'émanciper et à développer des idées des Lumières. Et on peut rappeler aussi leurs difficultés. Puisque...
Non mais y compris chez les hommes, oui. La femme incarne dans leur toile la liberté, n'est-ce pas que...
qui guide le peuple.
Qui guide le peuple. On n'a pas en parler. La pièce maîtresse, qui n'est d'ailleurs pas exposée chez vous.
Hein. Non.
Mais elle est évoquée. Hein.
Trop évident, je suppose.
Voilà. Mais on l'aborde avec une vidéo d'une artiste espagnole, Cristina Luca, qui a revisité l'œuvre, elle a réinterprété pour dénoncer des aspects négatifs de la démocratie ou la situation de la femme dans le monde. Voilà, donc il y a quand même une approche de l'œuvre et puis de très nombreux dessins, notamment du Carpo. Il y a des œuvres qui font référence, bien sûr, à l'œuvre de Delacroix.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Silence, le moral du cadavre, la paix de cimetière, oh, balango.
Libérez,
libérez la liberté,
libérez
le peuple fâché, oh, libérez la roue à tourner, oh,
libérez la liberté, oh.
La passion de la liberté des Lumières au romantisme. On vient d'écouter Pierre Akadenge, qui va très bien avec cette exposition, avec l'esprit de cette exposition à Bordeaux, à la Galerie des Beaux-Arts, jusqu'au 13 octobre. Je suis avec les deux commissaires de l'exposition, Caroline Fillon et Isabelle Bexia. Donc, on a parlé de la liberté d'un peuple, d'une nation, dans un contexte historique, politique, révolutionnaire. Mais l'exposition nous invite à aller plus loin, de questionner ce concept de liberté en parlant de la liberté de l'esprit, de la liberté des corps et donc du coup du libertinage. Et puis, très intéressant, on va en parler aussi de la liberté d'entreprendre et du libéralisme économique.
Donc la liberté d'entreprendre le corps d'abord, donc dans l'ordre des sujets. Effectivement, il y a une section sur le libertinage. Alors le libertinage, c'est intéressant parce que c'est un thème évidemment intrinsèque au XVIIIe siècle, qui est très lié aussi à la philosophie, évidemment à la littérature.
Pour aller très vite, cette exposition, c'est quand même le XVIIIe et XIXe siècle.
Voilà, XVIIIe et XIXe. Et c'est vrai que le libertinage, comme la liberté, a changé de sens. À la base, ça signifie affranchi. Et affranchi de la religion. Et puis, petit à petit, affranchi des normes, affranchi des règles, et une vie finalement un petit peu légère. Et c'est le XVIIIe siècle qui a orienté la connotation du libertinage vers le domaine de la sexualité et des mœurs.
Et ça donne quoi au niveau des œuvres artistiques exposées, Isabelle Bexia?
Alors, de nombreux objets, mais aussi des tapisseries. Là, c'est toute une ambiance de la volupté. Voilà, c'est un boudoir qui a été reconstitué dans l'exposition, qui évoque bien sûr la sensualité et les artistes majeurs qui ont traité le sujet. Alors après, on retrouve aussi des ouvrages, comme le célèbre texte de Diderot avec les bijoux indiscrets, lui qui avait un petit peu critiqué justement les libertins. C'est assez intéressant de trouver l'ouvrage à côté, ça rappelle aussi tout ce contexte. Voilà, donc c'est toute une ambiance qui a été créée et qui plaît beaucoup aux visiteurs.
Hein. J'imagine pourquoi. Et sinon, pour tout aussi important, mais alors là, pour le coup, assez inattendu, le libéralisme tel que vécu par les artistes. Alors là, c'est un discours que vous avez développé autour de quelques œuvres, où c'était vraiment quelque chose qui importait les artistes que de représenter le libéralisme.
Alors, c'était vraiment quelque chose qui importait, parce que il y a effectivement les artistes qui sont évoqués dans l'exposition, mais aussi les artisans. Donc on est toujours sur ce mode binaire, hein, beaux-arts et arts décoratifs. Et qu'est-ce que la liberté dans les arts décoratifs? L'art décoratif, c'est l'artisan, c'est son savoir-faire, mais c'est aussi le matériau. Ce sont des produits ou des objets, des denrées exotiques qui vont transiter dans les ports et qui vont stimuler l'imagination d'un artisan, de nouveaux matériaux qu'il va découvrir, qu'il va associer à des anciens. Et donc finalement, la liberté de commerce, la liberté d'entreprendre, la liberté économique, le libéralisme, en fait, il est central dans la notion de liberté au XVIIIe siècle et par la suite.
Même si là, c'est dans le sens noble du terme, hein, le libéralisme tel que vous le présentez dans cette exposition.
Dans le sens des philistins, les philistins qui l'ont défini à l'époque et qui ont prôné les premières mesures de libéralisme, de baisse de taxes douanières, etc. Et pour l'illustrer, c'était là que c'était compliqué, mais finalement, on l'illustre à travers les objets qui sont le fruit de cette richesse qui a été mise en place grâce au commerce. Alors richesse évidemment monétaire, mais pas que. La richesse de matériaux, les lacs, les porcelaines qui venaient d'Orient.
La faïence aussi.
La faïence, exactement, qui va imiter juste la porcelaine. On ne sait pas encore fabriquer la porcelaine dure en Europe. Mmh. Et voyant les pièces de porcelaine qui arrivent, eh bien on en récupère les décors. Donc on va essayer de parfaire les techniques et les recettes de faïence pour imiter la porcelaine. Donc ça stimule l'artisanat.
Et puis surtout les échanges avec la Chine, avec le Japon, avec des mondes lointains.
Avec toutes les contrées lointaines du globe. Et qu'est-ce qu'on échange? Ben voilà, on échange autant des produits qui sont des denrées alimentaires, des boissons, le thé, le chocolat, le café. Ben ça va demander à inventer des objets pour préparer et pour servir ces boissons chaudes, donc théière, cafetière, sucrier, pince à sucre. C'est vrai qu'on pourrait s'étonner de les voir dans une exposition sur la liberté, mais c'est la base de cette liberté économique.
Thank you. Et le parcours se termine avec les utopies ou la liberté de rêver. S'il fallait, justement, pour terminer cette émission, avec vous, Caroline Fillon et Isabelle Bexia, prendre juste un objet, une toile, et de raconter l'utopie dans le mot utopie de la liberté.
Voilà, alors, utopie dans l'exposition, ça, c'est une section qui parle des architectes qui ont osé rêver une architecture adaptée à tous, et notamment le célèbre architecte Ledoux, qui avait l'idée de, par exemple, dans le cadre du théâtre de Besançon, d'une architecture qui permettrait d'entendre et de voir de la même façon une égalité devant un bâtiment aussi. Hein. Voilà, mais après dans l'exposition, c'est vrai qu'on chaque artiste va incarner aussi sa vision de la liberté, et c'est vrai qu'on a tous des œuvres qui vont peut-être plus ou moins nous intéresser, mais c'est vrai que l'œuvre de David Marat représente vraiment une émancipation de la part d'un artiste, puisqu'on disait que c'en était fini des vents de l'eau, des bouchers, des restos, et qu'enfin un peintre régénérait la peinture et apportait une vision très libre. Et c'est vrai que l'exposition a la chance de présenter et donne l'opportunité au public de découvrir deux œuvres très très importantes. Il s'agit du célèbre tableau qui représente Marat à côté de celui de Barat, et c'est vrai que c'est vraiment intéressant de pouvoir confronter les deux œuvres et de voir à quel point là, ce sont des peintures qui ont fasciné les contemporains par le sujet qui et la manière de le traiter aussi, puisqu'on traite des sujets d'actualité. On représente Marat qui vient d'être assassiné dans sa baignoire, voilà, sans décor, de manière il n'est pas du tout représenté dans la tradition, et c'est un tableau qui encore aujourd'hui stupéfait et frappe les visiteurs.
Et enfin, pour terminer avec vous, Caroline Fillon.
Et pour faire écho à cette section sur le libéralisme économique, je choisirai un moulin à café, un petit moulin à café d'une dizaine de centimètres de haut à peine, ouais. En trois ores différentes. On voit donc sur le pourtour du moulin à café des grains de café qui sont ciselés, qui sont moulurés, et des nuances d'or, rose, vert, différents sur ce moulin à café qui a appartenu à Madame de Pompadour pour son hôtel d'Evreux. L'actuel palais de l'Élysée, et qui est une pièce du Louvre qui normalement est présentée et dont on nous a très aimablement autorisé le prêt pour cette exposition.
Mais c'est incroyable, hein ?
Donc ça fait partie des chefs-d'œuvre effectivement qu'il faut venir voir à Bordeaux.
Vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, c'est vraiment que cette exposition, elle rappelle la collaboration avec le Louvre et une convention de 3 ans qui permet à la fois d'organiser des expositions, des échanges scientifiques et artistiques, mais également des prêts et des dépôts d'œuvres en province et notamment à Bordeaux. Donc c'est vrai que pour nous, c'est important, ce partenariat.
Et pourquoi avoir choisi ce siècle de bascule ? Enfin, la réponse est incluse dans la question, mais quand même, j'ai envie de vous entendre, Caroline Fillon.
Sur le choix de la chronologie,
ouais.
Alors les lumières, évidemment, les lumières par la réflexion, par l'émulation qui a lieu à cette époque était un petit peu la base, le point de départ. Et c'est vrai qu'on voulait montrer aussi que tout ne s'arrête pas à la Révolution. Effectivement, on parle de choc des révolutions, mais finalement, la Révolution, on continue quand même à certains aspects à vivre comme auparavant. On s'interroge sur la notion de liberté. La France invente une nouvelle définition de la liberté, c'est digne d'être précisé, puisque des dictionnaires étrangers, dictionnaires autrichiens par exemple, disent voilà, la France a inventé la définition citoyenne de la liberté. Et on voulait voilà montrer aux visiteurs comment cette thématique se prolonge au 19e siècle, puisqu'on parle toujours de la révolution de 1789, mais il y a eu plusieurs révolutions en France et dans le monde qui vont interroger et secouer cette notion de la liberté.
Et qui ont interrogé et secoué aussi les artistes. On le voit aussi.
Secouer effectivement aussi les artistes pour des questions de censure, parce que effectivement c'était on prenait la liberté, mais il y avait encore des censures.
Oui.
Montesquieu voilà fait publier.
David va être incarcéré. Enfin,
David voilà, est incarcéré. Montesquieu fait publier l'aide personne à l'étranger. Donc voilà, finalement la liberté, elle est jamais dans l'absolu. Elle est toujours par rapport à quelque chose, à un moment donné, à un instant précis. Et c'est pour ça, on disait tout à l'heure, l'exposition n'apporte pas de réponse, mais elle invite le visiteur à vraiment s'interroger sur, même encore aujourd'hui, cette notion de liberté.
Le réveil culturel de Tufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
La passion de la liberté, des lumières au romantisme, c'est jusqu'au 13 octobre à la Galerie des Beaux-Arts de Bordeaux. Merci aux deux commissaires d'être venus ce matin, Caroline Fillon et Isabelle Bexia, merci beaucoup.
Merci.
Belle journée à vous, nous on se retrouve demain à la même heure.